Radio US.
Alors, l'estaminet pour qui est de la nourriture, bon, on peut manger quasiment sans discontinuer de 10h du matin à 1h de la nuit.
Laisse-moi voir un coup, après on parlera.
Attendent toutes les festivaliers d'aquesta année et écoutent toutes Radio US 98.6.
Radio US est
au milieu du triangle des Landes.
28e Estrella de las Arts du Zeste musical à Villandreau. 19h30, place Paul Dunem, scène des ménages. Histoire de parti pris du Zeste par René Martinez, conteur.
Un restaurant ouvrier, épicerie. Ce lieu qui ressemblait, comme on l'a dit, à une maison de la culture avant l'heure. Le mercredi, cinéma pour tous, y compris les villages alentours. Un projecteur, 40 chaises, toujours rempli. Le jeudi, il y avait réunion politico-syndicale, surtout consacrée aux résignés, car presque tous les hommes du Zeste, en ce temps, travaillaient dans les pins. Ce sont des résignés qui m'ont raconté ça. Les patrons payaient peu, demandaient beaucoup. En plus de la menace de la suppression de l'activité, puisque déjà la résine venue de Chine plombait le marché, c'est là que se tramaient les grèves et les manifestations, dont une qui restait dans la mémoire des résignés, qui avait entraîné plus de 60 barrages dans le département, et fait par les résignés, dont 80%. 80% étaient syndiqués. Alors pour ces résignés, les conditions étaient difficiles. Hein. Ce n'était pas mieux qu'aujourd'hui, évidemment. Mais un de ces résignés m'a raconté aussi qu'ils n'étaient pas payés quand ils étaient malades. Et alors un autre de repos ne travaillant pas, les le remplaçait pour que l'absent ait sa paye complète. Petite paye, d'ailleurs, ne tombant pas régulièrement, ce qui entraînait du crédit à l'épicerie. Mais Marie Lubat m'a dit que l'ardoise était toujours réglée et qu'elle n'avait jamais rien perdu. Ce qui n'est peut-être pas complètement exact d'après d'autres sources, mais c'est du moins la mémoire qu'elle en a. Elle doit être de parti pris hein, aussi. Le vendredi, il y avait concours de belote et de billard, et le dimanche après-midi et le soir, il y avait bal. Ce jour-là, devant l'estaminet, il y avait 250 vélos, 10 mobilettes et une 4 chevaux. C'était un bordelais qui, paraît-il, venait à cause des filles du Zeste. C'est un fils de la maison qui me l'a dit. Ensuite, les résignés définitivement au chômage, l'estaminet avait été obligé de réduire ses activités, mais en 1978, éclairci, première édition du festival du Zeste musical, sans subvention, grâce à l'argent du père Lubat qui avait vidé son compte en banque. Ce premier festival et ceux qui ont suivi étaient le prolongement, c'est du moins comme je le vois, moi, la délocalisation dans tout le village de ce qui se passait à l'estaminet. C'est peut-être ça qui a donné l'idée au départ, la musique, des débats, du cinéma et autres. Et ce, jusque depuis l'an dernier, bien que depuis 3 ans, l'hostilité de la municipalité, qui avait multiplié les mesures administratives, un refrain connu, faisait que la Estajade se battait pour survivre. Les habitués étaient toujours présents, les spectacles aussi, mais les conditions n'étaient plus réunies. Mais quand on se promène à Uzeste aujourd'hui, où je le rappelle, tout est calme, et sans être un regretteur du passé, on ne peut que vivre, si on peut dire, un énorme gâchis. La municipalité n'a pas voulu, l'enturlu. Hein. Je reviens sur un événement survenu en octobre 2004, le vandalisme exercé sur la librairie bibliothèque de la Maison de la Mémoire en Marche. Je vous rappelle les faits, mais il y a eu d'abord un article dans le Sud-Ouest qui était donné par la municipalité qui désirait effectuer une mise au point sereine et sans polémique. Bon. Alors, elle expliquait que les conditions de sécurité n'ayant pas été satisfaites, la menuiserie a fermé le lendemain du festival, 2004. La maison de la mémoire en marche ne doit pas recevoir plus de 20 personnes, et ainsi de suite. Mais là où je voudrais en venir, c'est ce qui s'est passé à la bibliothèque de la maison de la mémoire en marche, vandalisé. la municipalité a produit un petit paragraphe qui dit « Pour ce qui est de la bibliothèque vandalisée, la municipalité précise que personne n'est entré dans le local, une vitre est brisée, c'est suffisant pour être scandalisé, mais inutile d'en rajouter. » Alors effectivement, Bernard Lubat a répondu tout de suite à cet article, dans la première partie en disant que les moyens ne permettaient pas de réaliser la sécurité telle qu'elle était imposée. Mais c'est surtout sur l'aspect du vandalisme. Parce que voici, son aveuglement devant la portée symbolique, si lourde de sens que représente un attentat contre les livres, alimente la violence qu'inspire la peur. Une vitre est brisée, c'est suffisant pour être scandalisé, mais inutile d'en rajouter. C'est sûr, inutile de rajouter des précisions en vérité qui manquent dans ce compte rendu, qui sont les suivantes. Grille de fer de protection défoncée, déformée sous la violence des coups, inscription sur les volets et portes du cycle d'extrême droite, ordre nouveau, en 3 exemplaires. Ça semblait avoir été oublié, négligé par la municipalité. Dans la phrase « c'est suffisant pour être scandalisé », qui est scandalisé ? Madame la maire, nous ne sommes pas au courant, nous n'en savons rien. La mairie ne nous a toujours rien communiqué, ni oralement, ni par écrit, de sa position sur le sujet. Pas un seul mot non plus d'échanger sur la question avec nos conseillers municipaux, nos voisins du quotidien. Et Corinne Caralia, qui est secrétaire de l'association de la Maison de la Mémoire En Marche, fait remarquer que la sécurité de la Maison de la Mémoire En Marche préoccupe tellement nos élus usestois que pas un seul n'a jugé nécessaire de se rendre sur place ni de contacter aucun membre de l'association. Et quand la veille de la réouverture des lieux, Madame la maire effectue une tournée du village en compagnie de l'équipe chargée du projet de réaménagement du bourg, elle prend soin de détourner la tête et de changer de trottoir quand son parcours l'amène devant la Maison de la Mémoire En Marche, où adhérents et bénévoles s'activaient pour effacer les dernières traces des vandales. Et encore un peu, le civisme du voisin de la librairie a alerté la gendarmerie, n'a pas fait défaut. Pas plus que celui des commerçants et des membres du club de foot qui offrirent publiquement l'apéritif de réouverture samedi dernier. Je précise toutefois, dit Corinne, que la restriction limitant l'accès des lieux à un maximum de 20 personnes aussi à la fois serait vite dépassée si les conseillers municipaux se mettaient à fréquenter la librairie en famille. J'en conclus que c'est par souci de sécurité qu'ils ne le font pas, afin de ne pas mettre en danger les autres visiteurs en surnombre. Alors, ce petit ou ce grand épisode me fait référence à des choses peu agréables. Peu agréables, c'est-à-dire cette volonté de s'attaquer aux livres et avec la municipalité qui... Personne n'est entré dans le local, c'est suffisant pour être scandalisé, mais inutile d'en rajouter. Alors je me permets de faire quelques commentaires là-dessus, sur ces livres qui font peur. Il y a 2 ans ou 3, j'avais dit que c'était étonnant de voir que la maire du Zest, dans un village aussi petit, à l'ouverture d'une bibliothèque-librairie, elle n'avait pas daigné franchir le seuil. Mais je dois rectifier, puisqu'elle a franchi le seuil cette fois à la tête de la commission de sécurité, dont elle a vu les livres. Et puis, je fais un autre parallèle avec, que vous pourrez peut-être trouver audacieux, mais pas moi. C'est lorsque les municipalités du sud de la France, certaines, dont la couleur n'était pas loin des sigles qui se trouvaient sur... la Maison de la Mémoire En Marche, je suis attelé d'abord, ils ont pris les lieux de culture, et puis surtout, ils ont enlevé des livres, ils ont fait enlever des livres des bibliothèques. Or, parmi ces livres qui ont été enlevés, il y a les contes d'Henri Gougaud. C'est-à-dire que des contes que Henri Gougaud prend un peu partout dans le monde et réécrit. Et les contes africains ont été les premiers à être enlevés. On se demande un peu pourquoi. Alors, je vais vous en donner deux de ces contes qui ont été enlevés, ces contes africains. Évidemment, je suis de parti pris, alors je ne les ai pas choisis au hasard. Un jour, arrivèrent des hommes blancs chez les papous, qui les voyaient si blancs et si propres et si recouverts. Ils se dirent que leur venaient là des esprits en visite, car enfin, ainsi enfermés de haut en bas dans leurs vêtements, comment pouvaient-ils se soulager leur arrière et alléger leur vessie ? Jusqu'au matin où un petit malin, plus curieux que les autres, se cache pour en suivre un qui s'avance dans les fourrés. Il le voit baisser ses pantalons, pousser et poser. Il attend qu'il se relève et s'éloigne, puis va regarder de près ce que le blanc vient de déposer. Il constate que c'est identique à ce que font, pour soulager leurs arrières, au point de vue de la couleur, de la forme et de la senteur forte. C'est depuis qu'on sait qu'il n'y a pas de différence entre les blancs et les papous. Et c'est très bien comme ça. On peut se demander à qui ça pouvait gêner, ça. Un autre qui est dans le domaine de l'amusement. Vous savez que d'invérifiables rumeurs... On dit que dans le temps lointain, au paradis, il est arrivé une histoire entre Adam, Ève, un serpent et une pomme. En réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On sent le récit arrangé. La faute vient à une abeille. On l'a faite parler, elle a tout avoué. Ève et son cher époux vivaient donc en ces temps-là au paradis terrestre. À quoi s'occupaient-ils ? À s'aimer plaisamment dans les fleurs odorantes, à l'ombre d'un palmier, penchés sur leurs ébats. Ils ne faisaient pas l'amour puisque ce n'était pas inventé, mais l'amourette simplement. Ils échangeaient caresses et baisers et découvraient en riant la fragile douceur de les endroits secrets. « Qu'est-ce cela, mon ami ? » disait-elle. « Que caches-tu là ?» lui disait Adam. Et le regard s'éclairait, ce qui montre que les questions n'ont pas besoin de réponse. Un jour, aussi tendre et bleu que d'ordinaire, alors qu'ils étaient tous deux allongés l'un contre l'autre, je vous rappelle qu'ils vivaient nus. Je vous rappelle qu'ils vivaient nus. Ils ne s'étaient pas déshabillés, sinon il y aurait eu préméditation. Alors, ils étaient allongés l'un contre l'autre, ils continuaient leurs caresses. Une abeille sortit au même instant d'un arbre et fonça goulûment sur la croupe d'Adam. Il fut piqué au vif. La douleur fut cuisante. Vous voyez la scène, hein ? Vous voyez la scène, tous les deux allongés. Et il eut un sursaut bref. Vous avez deviné. L'aiguillon d'Adam fut reçu par Ève, qui gémit et soupira, puis chantonna des plaintes extrêmement contentes, et conclut farouchement par ces mots qui depuis ont fait le tour du monde, en particulier dans la bouche de toutes les catholiques du monde entier, « Ô Seigneur, je jouis !» Erreur fatale. On n'invoque pas le Créateur dans ces moments-là. Car le Créateur, s'entendant ainsi interpellé, se pencha sur la terre, il vit la scène. Et là, le récit, contrairement au premier, celui qui est en général connu, nous permet de participer, parce que le Créateur était-il fâché, courroucé, vexé de ne pas avoir imaginé un tel aboutissement, ou encore d'avoir négligé que c'est agréable de se laisser aller à ses désirs, ou bien d'autres choses. Nous n'en savons rien, mais c'est le propre du conte, comme de l'art d'ailleurs, de nous laisser dans l'incertitude. Et que fait le Créateur ? Il l'index levé, il désigne rudement l'horizon, il chassa aussitôt les deux contrevenants hors du paradis parfait. On peut d'ailleurs aussi se demander si Adam et Ève n'étaient pas plutôt heureux après la découverte qu'ils venaient de faire, et n'avaient qu'une hâte que je vous laisse deviner. Comme vous savez, les coupables s'en consolèrent. C'est l'amour d'elle et l'envie de lui. C'est l'amour de lui et l'envie d'elle. Alors, je voulais ne pas continuellement parler de la municipalité du Zest. Oh, tout est calme, je vous le rappelle. Mais alors, nous sommes submergés. Hier, à France Culture, Madame la maire a été interviewée. Je vous donne la fin, le début, elle a dit tout simplement que ce n'était pas sa faute s'il n'y avait pas le festival. Bon, question du journaliste. Vous regrettez que le festival ne soit plus à Uzeste ? C'est sûr, mais il n'est pas très loin, à 4 kilomètres. Vous irez ? Non. Pour la première fois, je prendrai des vacances. Jusqu'à maintenant, j'étais de service jour et nuit. Je vais en profiter, je suis sur le bassin d'Arcachon. Je n'ai pas changé un mot. Hein. Alors, pour m'amuser, évidemment, j'ai lu avec attention tous les Uzeste Flash Info qui sont les communiqués de la municipalité et qui sont mis dans les boîtes aux lettres. J'ai relevé une phrase qui n'a rien à voir avec le sujet, mais enfin, il est dit, note, notre station de refoulement rencontre de nombreux problèmes qui vont nous obliger à modifier le système actuel. En effet, il va falloir créer une chambre à vannes. Une chambre à vannes. Je crois que c'est amorcé. Je ne sais plus qui a dit déjà, la vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son. Il y a des gens qui peuvent paraître brillants jusqu'à ce qu'ils se mettent à parler. Et puis, un peu, je voudrais dire, alors, justement, pour cette fois-ci amoindrir que en provoquant le départ de l'Estejade du Zest, la municipalité a entraîné pas mal de commentaires, car tous les Uzestois ne sont pas d'accord. Elle a ainsi, en fait, favorisé l'esprit critique. On peut regretter simplement que ce soit sa seule contribution à la culture. Les Uzestois, d'ailleurs, sont allés demander à Madame la maire des explications sur l'hostilité vis-à-vis du Zeste musical. Mais ils sont vite revenus. Elle était tellement froide qu'ils se sont enrhumés. Car chez elle, tout est à l'intérieur, hein, comme les raviolis. L'inspecteur des impôts de la circonscription aurait l'intention d'adresser une note aux habitants du Zeste. Des bruits lui seraient parvenus. Il leur rappelle que dans la rubrique « Personne à charge », il est formellement interdit de mentionner l'ensemble du conseil municipal. D'ailleurs, ce même conseil municipal se préparerait à voter une résolution qu'on arrête de rire de lui. Une petite annonce paraîtrait dans quelques jours. À Vendre, mairie d'un petit village girondin. On ne dit pas où, hein. Les murs nus, 50 000 euros. La même, avec le conseil municipal, on vous offre 50 euros si vous nous en débarrassez. Mais une rumeur non encore confirmée, alors là c'est une rumeur, vraiment une rumeur, hein, se répand dans tout le bourg. La commission de sécurité envisagerait de visiter la mairie. Ce serait insalubre et malsain. Et il serait nécessaire d'aérer pour laisser entrer un air nouveau. Et je vais... Je suis passé devant la mairie du Zest, où tout est calme. Et j'ai rêvé un peu, et parce que c'est vrai que si on ne rêve que la nuit, on se limite. Alors, j'ai rêvé qu'un jour serait inscrit sur le fronton de la mairie une phrase que j'ai entendu prononcer en 1967 par Jean Villard. Un festival, c'est la tentative de quelques têtes dures maintenues par la volonté de quelques-uns alors qu'il devrait être le trésor de tous. Je ne pense pas que je le verrai. Hein. Et pour terminer, je voudrais vous dire aussi que vous rappelez, puisque toujours là-bas tout est calme, que Max Rouquette, vous savez, qui est un poète et auteur occitan, est mort le 24 juin. Hein. Cette année, l'Occitanie est vraiment orpheline avec Bernard Mansiette et Max Rouquette. Et j'ai pris deux lignes de Max Rouquette qui, je crois, conviendrait aujourd'hui à Uzest où tout est calme. Le ruisseau du lavoir était accablé de silence. Même l'eau était muette. Adi Schatz.